Bonsoir à tous. Pour cette étude biblique sur le thème de l'évangélisation, dans le cadre de notre thème encore plus général sur l'année « Suis-moi, la vie du disciple », j'ai choisi de ne pas étudier la question de façon classique. On pourrait partir de l'ordre de mission de Jésus, et puis de cet ordre de mission de Jésus, en déduire quelle est la mission de l'Église, et du coup de chacun des témoins qui la composent. Mais j'ai choisi une autre façon d'aborder les choses, puisque j'ai déjà eu l'occasion de parler de l'ordre de mission de Jésus, qu'on trouve à la fin de l'évangile de Matthieu, par exemple, dans une prédication, et j'ai également abordé la question de la mission de Dieu dans une étude biblique que j'ai donnée fin mars. Donc on va aborder la question de façon un peu plus originale que d'habitude. Je vous renvoie également comme complément à cette étude à la prédication que j'ai eu l'occasion d'apporter le 3 mai et qui traitait du thème de notre témoignage. Et cette prédication est bien sûr disponible à partir du site internet de l'Église. Je vous propose du coup de nous laisser guider par trois textes. Le premier, ce sera 2 Timothée 1, les versets 1 à 14. Le deuxième, 1 Corinthiens 9, versets 13 à 27. Et Actes 11, versets 1 à 11. Et dans un premier temps, on tentera de cerner la nature de l'évangélisation. Deuxièmement, on écartera un certain nombre de mauvaises raisons pour lesquelles on annoncerait l'évangile, pour enfin découvrir quelle doit être notre motivation, en tout cas une bonne motivation à l'annonce de l'Évangile. Et enfin, nous verrons de quelle manière nous sommes tous appelés à être témoins. Et je vous propose maintenant, pour la nature de l'évangélisation, de lire un texte que l'on trouve donc dans 2 Timothée, chapitre 1, les versets 1 à 14. Et je vous en ferai la lecture dans la Bible dite à la colombe. Donc 2 Timothée, chapitre 1, versets 1 à 14. Paul, apôtre du Christ Jésus, par la volonté de Dieu, selon la promesse de la vie qui est en Christ Jésus, à Timothée, mon enfant bien-aimé, grâce, miséricorde et paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus, notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu que je sers à la suite de mes ancêtres avec une conscience pure, et je ne cesse de faire mention de toi dans mes prières nuit et jour, car je me souviens de tes larmes, et j'ai le vif désir de te revoir, afin d'être rempli de joie. Je garde aussi le souvenir de la foi sans hypocrisie qui est en toi, et qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs, et dans ta mère Eunice. Comme j'en suis persuadé, elle habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi prisonnier pour lui, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu. C'est lui qui nous a sauvés et nous a adressé un saint appel, non à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre dessein et de la grâce qui nous a été donnée en Christ Jésus, avant les temps éternels. Cette grâce a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Christ Jésus, qui a réduit à l'impuissance la mort et mis en lumière la vie et l'incorruptibilité par l'Évangile. C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur, apôtre et docteur. Et pour cette cause, j'endure ces souffrances. Mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Christ Jésus le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. S'il est vrai que le Nouveau Testament ne contient aucune injonction à évangéliser, ça c'est le professeur Monsieur Buchold, Jacques Buchold, qui fait remarquer cela dans un article, aucun impératif nous exhorte à évangéliser dans la parole de Dieu. Il n'en est pas moins vrai que le témoignage chrétien et la prédication de la parole de Dieu, et même la prédication de la parole de Dieu avec justesse, sont un souci permanent pour les apôtres. Lorsque Paul sent la fin de sa vie approcher, il écrit à Timothée ce qu'il a le plus à cœur. Et dans le texte que nous avons lu, nous pouvons percevoir le cœur de Paul pour l'annonce et la transmission de l'Évangile. Car l'Évangile est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La foi s'inscrit toujours dans une histoire. Notre foi personnelle a une histoire. Pour plusieurs d'entre nous, nous sommes venus au Seigneur grâce à nos parents, nos moniteurs d'école du dimanche, grâce au témoignage d'un ami, etc. L'évangélisation n'est pas seulement une action ponctuelle, c'est un processus, une histoire qui nous conduit à Jésus-Christ. De la conscience du surnaturel à la décision personnelle de vivre en disciple de Jésus, il y a tout un chemin. Et ce chemin ne s'arrête pas à la conversion, puisque l'Évangile continue, encore après la conversion, de nous transformer jusqu'à la fin de notre vie. Même pour quelqu'un qui trouverait par hasard une Bible dans la rue et qui se tourne vers Dieu en la lisant, sa foi a une histoire. Alors non seulement l'histoire liée aux circonstances, trouver une Bible comme ça dans la rue, mais aussi l'histoire de la Bible elle-même qui a été fidèlement copiée pour être transmise au fil des siècles, et traduite afin que nous puissions la comprendre dans notre langue sans devoir apprendre le grec. Ceci dit, c'est bien aussi d'apprendre le grec. Et bravo à ceux qui le font. Dès les salutations, donc dans cette deuxième épître à Timothée, où Paul dit les choses les plus importantes qu'il a à cœur, Paul est tout de suite centré sur l'Évangile. Il nous rappelle sa mission principale, à savoir annoncer la vie promise par Dieu et accessible dans l'union avec Jésus-Christ. Ce verset concerne le ministère de Paul, mais il nous concerne nous aussi aujourd'hui. Nous sommes de bons imitateurs de Paul, comme il nous y invite, si nous nous impliquons dans l'œuvre merveilleuse de notre Dieu pour le salut du monde. Ce plan de sauvetage de l'humanité, Dieu l'a commencé dès la chute de l'homme. Il s'accomplit pleinement en Jésus-Christ par son œuvre de rédemption et il sera achevé lors du renouvellement de toutes choses. Évangéliser, c'est dire cela, que Dieu a un plan de salut pour l'humanité. Et il y a mille et une façons de le dire. Peut-être même qu'on peut aussi le dire sans mots. Mais les mots sont tout de même bien pratiques pour pouvoir donner aussi un sens à nos bonnes actions. Et lorsque nous parlons, il est inutile de vouloir tout dire en une seule fois. N'oublions pas que nous ne sommes qu'un maillon de la chaîne. Nous sommes des héritiers, les héritiers de la bonne nouvelle, les héritiers du salut en Jésus-Christ. Et dans ce texte, nous voyons que l'Évangile a eu tout un cheminement depuis la grand-mère, puis ensuite la mère de Timothée, pour arriver enfin à Timothée. Paul a joué aussi un rôle, mais cet héritage aussi familial a contribué à la foi de Timothée. La flamme de l'Esprit-Saint, ce feu qui brûle en nous pour le salut de ceux qui nous entourent, des personnes qui nous entourent, ne doit pas s'éteindre. Elle doit sans cesse être ravivée. Raviver la flamme, c'est être enraciné dans la parole de Dieu afin de l'annoncer fidèlement. Et pour cela, Dieu donne le courage, la force et même celle de souffrir. Nous voyons cela au verset 8 de notre texte. Dieu donne également la sagesse et l'amour par son esprit. Verset 7. Le Seigneur nous équipe de tout ce dont nous avons besoin, car Jésus-Christ est présent à nos côtés, y compris dans les moments difficiles. Sa force, sa sagesse, son amour et son courage nous permettent d'avancer malgré les obstacles, les attaques et les chutes. 2 Timothée 1,9 dit « C'est lui qui nous a sauvés et appelés à mener une vie sainte. Et s'il l'a fait, ce n'est pas à cause de ce que nous avons fait, mais bien parce qu'il en avait librement décidé ainsi à cause de sa grâce. » Le salut a son origine dans l'œuvre de Dieu et non dans celle de l'homme. C'est Dieu qui sauve, qui appelle, qui décide et qui donne à cause de sa grâce. Ceci dit, le message de l'Évangile doit être gardé et transmis fidèlement. Dieu nous a confié une mission, Dieu nous fait entrer dans sa mission. Et là, on touche un mystère d'une beauté extraordinaire. Pourquoi Dieu collabore-t-il avec des hommes comme nous ? Nous avons des défauts et lui n'en a pas. Nous faisons des erreurs et lui n'en commet jamais. Et pourtant, Dieu nous confie l'évangile comme un bien précieux à partager. Alors, soyons sérieux dans cette tâche que Dieu nous confie. Gardons l'évangile intact, mais ne le gardons pas pour nous-mêmes. Partageons la bonne nouvelle à ceux qui nous entourent. N'ayons pas honte de rendre témoignage de Jésus. La grâce révélée par Jésus-Christ libère, délivre et remplit la vie de celui qui croit de lumière et de l'espérance de l'éternité. Alors oui, il y aura des luttes et l'évangélisation est un combat spirituel à mener. Il nous arrivera aussi, comme Paul, de souffrir pour l'évangile. Mais la parole de Dieu continuera son œuvre de salut. L'évangile restera intact. C'est aussi une promesse, car Dieu lui-même garantit l'évangile. C'est lui qui le préserve souverainement au cours de l'histoire. L'évangile est donc, et l'évangélisation, c'est quoi ? C'est transmettre une parole que nous avons reçue. Maintenant, quelle est notre motivation dans notre annonce de l'évangile ? Pourquoi évangéliser ? Avec quelle motivation évangéliser ? Je vous invite pour cela à lire un texte que l'on trouve dans 1 Corinthiens, chapitre 9, les versets 13 à 27. Donc 1 Corinthiens, chapitre 9, les versets 13 à 27. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple ? Que ceux qui servent à l'autel ont part à ce qui est offert sur l'autel. De même aussi, le Seigneur a établi comme règle que ceux qui annoncent l'Évangile vivent de l'Évangile. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits, et je n'écris pas ainsi pour qu'ils me soient attribués, car j'aimerais mieux mourir. Personne ne m'enlèvera ce sujet de gloire. Évangéliser n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Malheur à moi si je n'évangélise. Si je le fais de bon gré, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense ? C'est, en évangélisant, d'annoncer gratuitement l'évangile sans user du droit que l'évangile me donne. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme juif afin de gagner les juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi. Et pourtant, je ne suis pas moi-même sous la loi afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi. Et pourtant, je ne suis pas moi-même sans la loi de Dieu, mais sous la loi de Christ afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul reçoit le prix ? Courez de manière à l'obtenir. Tout lutteur s'impose toute espèce d'abstinence, eux pour recevoir une couronne corruptible, nous pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, mais non pas à l'aventure. Je donne des coups de poing, mais non pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur, après avoir prêché aux autres, d'être moi-même disqualifié. Malheur à moi si je n'évangélise. On le sent bien à la lecture du texte, nous avons là un cri révélateur de l'apôtre Paul. Le passage que nous venons de lire, d'ailleurs, nous fait entrer dans la psychologie de l'apôtre Paul. Il nous donne un aperçu des motivations intérieures de son zèle. Il nous donne les raisons pour lesquelles il s'efforce d'en gagner quelques-uns. Cette expression qui revient plusieurs fois. En gagner quelques-uns. En effet, malgré les emprisonnements que Paul a pu connaître, les naufrages, la faim et les coups, les critiques et les calomnies, Paul tient debout et continue dans la mission que Dieu lui a confiée. Mais ce qu'il dit ne le concerne pas seul. C'est une interprétation erronée de voir dans ce cri une particularité du ministère de Paul. Certains qui interprètent dans ce sens opposent le ministère volontaire des autres apôtres et celui de Paul qui serait contraint de servir Dieu depuis sa conversion sur le chemin de Damas. En fait, ce qu'on constate pour tous les disciples, c'est que l'appel de Jésus est un ordre. « Toi, suis-moi » ou encore « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Il est vrai que ces paroles désignent en tout premier les apôtres, mais elles concernent aussi tous les chrétiens, tous les disciples de Jésus. Les paroles de Paul, « Malheur à moi si je n'évangélise », nous devons les prendre pour nous-mêmes. Elles ne correspondent pas seulement à la biographie particulière de Paul. Voilà déjà un premier point qui me semble important. Tous les chrétiens sont témoins et portent donc chacun à leur niveau la responsabilité de témoigner et d'évangéliser, c'est-à-dire annoncer la bonne nouvelle. Ne croyons pas non plus que Paul évangélise à contre-cœur par peur d'un châtiment divin qui lui tomberait dessus s'il se relâchait dans ses efforts. Dans un autre texte, acte 9, verset 5, il est question des aiguillons du Seigneur contre lesquels il est dur de regimber, d'après les traductions un petit peu anciennes, contre lesquels il est dur de résister, en tout cas d'après certains manuscrits d'acte 9, verset 5. De quoi s'agit-il? Ce sont probablement les événements qui ont poussé Paul à la conversion, ou au moins leur effet sur Paul lui-même. Paul n'a pas pu résister, en quelque sorte, à l'appel de Dieu. Il y a été poussé, mais par amour du Seigneur pour lui. Il nous arrive, quant à nous, d'évangéliser ou d'imaginer que nous devrions évangéliser par peur d'un châtiment divin. Ne tombons pas dans le piège qui consiste à nous dire « si je n'évangélise pas, ça va me porter malheur ». Ce n'est pas ça le sens de « malheur à moi si je n'évangélise ». Ce n'est pas comme ça qu'il faut comprendre l'apôtre Paul. La motivation de l'évangélisation ne doit pas être la peur d'un châtiment divin. Certains ont cru que Paul avait un doute sur la vérité de l'évangile et qu'en évangélisant, il se persuadait de la vérité de ce qu'il disait. « Malheur à moi si je n'évangélise, car sinon je serai seul à penser et à croire en l'évangile ». L'apôtre essayerait, selon cette interprétation, de gagner d'autres personnes pour qu'il ne soit pas le seul à croire en l'évangile. Le problème avec cette interprétation libérale est que nulle part dans ses épîtres, l'apôtre Paul n'émet le moindre doute à propos de ce qu'il enseigne et qu'il dit lui-même qu'il serait d'accord de mourir pour que d'autres parviennent au salut. Il est important, quand nous témoignons, de savoir ce que nous disons et d'être convaincus de ce que nous disons. Paul serait-il sous une loi, un impératif qui lui dirait qu'il faut évangéliser? Nous nous sentons moins coupables, c'est vrai, s'il y a une évangélisation tous les 3 mois et si nous faisons une distribution de traités de temps en temps. Mais ça, c'est la loi. Bien souvent, il n'y a que peu de fruits à ce type d'initiative faite par obligation. Et cela ne fait que renforcer notre impression qu'il faut le faire parce qu'il faut le faire. Alors loin de nous l'idée que Paul se replacerait ici sous la loi. Il le dit lui-même d'ailleurs, il n'est plus pas sous la loi. Il est bien question de nécessité, voire de responsabilité, mais pas de loi dans le sens légaliste du terme. Au verset 21, Paul se dit dans la loi du Christ et non sous la loi du Christ. La loi de Christ n'est pas comme une instance qui est au-dessus de lui et qui serait étrangère. Au contraire, Paul est uni de cœur à la volonté de Dieu, à tel point qu'il peut se dire « dans la loi du Christ ». La volonté de Christ est une chose intérieure qui le motive du dedans, et c'est pourquoi on peut dire qu'il n'est pas légaliste. Attention, nous aussi, dans notre pratique du témoignage ou de l'évangélisation, à ne pas être légaliste. Quelle est alors cette nécessité dont il est dit qu'elle lui est imposée? La réponse est en 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 14. L'amour du Christ nous presse ou nous étreint. La loi du Christ, c'est l'amour de Jésus-Christ qui étreint Paul et le porte constamment vers les autres pour leur annoncer l'évangile. Un amour qui n'est pas que sentiment, puisqu'il est question de la mort de Jésus-Christ. Dans ce passage en 2 Corinthiens 5, versets 14 et 15. Ce qui motive l'apôtre, c'est l'amour. La nécessité qui lui est imposée, c'est celle de l'amour qui procède de la croix de Jésus-Christ, bien comprise. Maintenant, le mot « malheur » pourrait se traduire aussi « hélas » d'après le dictionnaire grec. Ainsi, l'apôtre se dit plutôt sur un ton désolé « quel malheur pour moi si je n'évangélise !»« Quel malheur pour moi car je déçois celui qui m'a confié une telle charge !» Imaginez un instant que vous avez un accident de voiture, que vous êtes encore coincé, la voiture commence à flamber, quelqu'un au risque de s'enflammer lui aussi intervient, vous arrache au brasier et vous sauve la vie. Il devient votre ami, et quelque temps plus tard, des calomnies s'accumulent contre lui, on lui intente un procès et il vous demande d'être son témoin. Quel malheur si vous dites alors « Oh non, je ne peux pas, je suis pris ce jour-là, j'ai trop à faire ». Ou encore, je n'ai pas envie. Être sauvé sans répondre à l'ordre missionnaire du Seigneur, c'est un vrai malheur. Quel malheur aussi pour moi si je n'évangélise pas en raison de mon indifférence au sort de ceux qui se perdent ou de mon aveuglement à l'égard de leur détresse. Si c'est mon cas, c'est que je me suis isolé dans un cocon douillet, mais mortel. Finalement, malheur à moi si je n'évangélise, car je m'éloigne de l'évangile. Si je n'évangélise pas, je me rends étranger à l'évangile même, car le mouvement de l'évangile, c'est l'amour de Dieu qui vient jusqu'à moi. Si le chrétien qui vit de l'évangile se coupe de ce dont il vit, il ne peut pas dire, comme Paul, « Je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part ». Enfin, évangéliser, oui, mais avec la manière et à la manière d'un témoin. Pour cela, nous allons lire un troisième texte, Actes chapitre 1, les versets 1 à 11. Donc Actes chapitre 1, les versets 1 à 11. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux aussi qu'avec plusieurs preuves, il se présenta vivant après avoir souffert et leur apparut pendant 40 jours en parlant de ce qui concerne le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, dont, leur dit-il, vous m'avez entendu parler. Car Jean a baptisé d'eau, mais dans peu de jours vous serez baptisés d'Esprit Saint. Eux donc, réunis, demandèrent « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Il leur répondit « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici que deux hommes en vêtements blancs se présentèrent à eux et dirent « Vous, Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel, du milieu de vous, reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. » Ceux qui ont lu le Nouveau Testament, en particulier les évangiles et le livre des actes, n'ont sans doute pas manqué de découvrir que l'une des premières responsabilités qui a incombé à ceux qui ont suivi, compris et accepté la mission de Jésus, a été de raconter aux autres ce qu'ils ont vu et vécu. Nous aussi, dès que nous croyons en Jésus, nous devenons à la suite des apôtres des témoins. Mais qu'est-ce que ça veut dire être un témoin ? Pour bien comprendre ce terme, il faut d'abord saisir son sens, pris dans le contexte habituel où il est employé. Le mot « témoin » vient du vocabulaire qu'on emploie dans un tribunal pendant un procès. Devant le juge, la partie civile et l'avocat de la défense produisent leurs témoins qu'ils font venir à la barre. Un témoin a une tâche précise à remplir. Il atteste en rapportant des faits. Il dit ce qu'il a vu ou entendu, et ce qu'il dit va servir de preuve pour établir la vérité. On ne demande pas à un témoin d'être un grand orateur. Il n'a pas besoin d'avoir une intelligence supérieure ou une imagination hors du commun. Le témoin n'a rien à inventer. Il n'a pas à embellir les faits. Il doit simplement dire sous serment la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Un témoin dit publiquement ce qu'il a vu, entendu, vécu. Rien de plus. Tout chrétien est un témoin, mais un témoin de quoi ? Essentiellement d'une personne, Jésus-Christ. Celui qui a cru atteste que Jésus-Christ est vivant. Il rapporte des faits qui lui sont arrivés. Il est vivant dans ma vie. En voici la preuve. Et ce qu'il va dire prouve cela. Notre façon d'être des témoins, vous l'avez remarqué, je pense, est un peu différente de ce que Jésus a demandé aux apôtres. Dans un sens historique et premier, le témoignage des apôtres est unique parce qu'il est direct, pas le nôtre. Eux, les douze, ils ont vu Jésus. Ils l'ont accompagné pendant 3 ans sur les routes poussiéreuses de la Judée et de la Galilée. Leurs mains l'ont touché, leurs oreilles l'ont entendu. Ils ont assisté à des miracles, à des guérisons, à des résurrections même. Jésus était leur ami. Ils ont mangé, ri, pleuré, dormi en sa compagnie. Ils le connaissaient bien, ils l'aimaient. Ils étaient là quand il a été arrêté, battu, condamné, crucifié. Pendant ces heures sombres, leur rêve a été fracassé. Puis contre toute attente, 3 jours plus tard, ils l'ont vu vivant à nouveau. Le témoignage des apôtres, c'est d'abord et avant tout une proclamation basée sur des événements précis. Celui qui était mort, qu'on a embaumé, enterré, est revenu à la vie. On l'a vu de nos propres yeux, on peut l'attester au prix de notre vie même. Tel a été le témoignage des apôtres. Nous ici, à Mulhouse ou ailleurs, le 14 mai 2020, on n'a pas vu Jésus comme les apôtres, c'est vrai. Nous sommes de ceux de qui Jésus a dit « heureux ceux qui ont cru sans avoir vu ». Nous sommes de ceux, comme l'apôtre Pierre le dit, qui l'aiment sans l'avoir vu et qui croient sans le voir encore. Et nous nous réjouissons d'une joie ineffable et glorieuse parce que nous obtiendrons le salut de notre âme pour prix de notre foi. 1 Pierre 1, versets 8 et 9. Notre témoignage est à la fois direct et indirect. Indirect parce que basé sur le témoignage écrit des apôtres. Direct parce que nous avons vécu quelque chose de réel, de personnel avec Dieu quand nous avons cru en Jésus. C'est donc à la manière du possédé de Gadara, en Marc 5, qui devait aller raconter tout ce que Jésus avait fait pour lui, que nous sommes témoins. Notre témoignage consiste à dire que ce que les apôtres ont écrit est vrai, et de raconter ce que Jésus a fait pour nous. Le témoignage de l'aveugle né ressemble aussi au témoignage que nous sommes appelés à rendre aujourd'hui. J'étais aveugle, et maintenant je vois. Il faut bien faire une distinction entre le fait que nous sommes tous des témoins et l'affirmation que j'ai entendue parfois dans des églises que tous les croyants seraient des évangélistes. La première affirmation est biblique, la seconde non. Je pense qu'il faut insister sur le fait que tous dans l'église ne sont pas des évangélistes. Tous n'ont pas ce ministère spécifique pour l'annonce de l'évangile. C'est pour motiver les chrétiens à annoncer l'évangile qu'il est arrivé que des pasteurs bien intentionnés disent que tous les chrétiens étaient appelés à être des évangélistes. Il ne leur a fallu pas très longtemps pour comprendre qu'ils n'étaient pas tous des évangélistes dans le sens biblique du terme. Certains le sont, mais pas tous. Le fait de leur demander de l'être n'a pu que les décourager. Ils se sont probablement sentis écrasés, coupables. Au lieu de les motiver, ça les a en fait démobilisés. C'est une erreur regrettable qu'il faut éviter. Il y a bien de meilleures manières de motiver l'Église à témoigner. Néanmoins, on peut quand même se poser la question, qu'est-ce qu'un évangéliste ? Alors très rapidement, parce que il faut bientôt arriver vers la conclusion aussi de notre étude, mais mentionnons très rapidement qu'un évangéliste, c'est un homme, une femme, un individu qui a reçu un charisme de la part de Dieu. un don spirituel pour annoncer l'évangile d'une manière claire et efficace, à temps et à contre-temps, comme l'explique Paul à Timothée dans sa deuxième lettre. En examinant la vie de Philippe, l'évangéliste, nous remarquons que l'activité d'une personne qui a ce don n'est pas nécessairement limitée à une population ou à un lieu particulier. Contrairement aux témoins, l'évangéliste, me semble-t-il, n'a pas besoin de contexte particulier pour évangéliser. En plus d'être équipé par le Saint-Esprit pour annoncer le message du salut simplement, l'évangéliste équipe et motive les chrétiens autour de lui afin qu'ils soient de bons témoins. Le rôle du témoin est quant à lui différent. Le témoignage, c'est le rôle de chaque chrétien dans l'Église. Chaque chrétien qui incarne le message de l'Évangile là où Dieu l'a placé. Le témoin se rend disponible à Dieu alors qu'il vaque à ses occupations quotidiennes afin que Dieu l'utilise. Il se prépare à répondre à ceux qui lui posent des questions. Il a un discours assaisonné de grâce et il est capable de raconter son vécu avec Jésus aux autres. Dans l'étude écrite, je vous laisserai un certain nombre de références aussi pour bien faire la différence entre le témoin et l'évangéliste. Conclusion qui sera assez rapide à présent. Le plus important n'est pas de bien parler de l'évangélisation, c'est plutôt de le mettre en pratique. Et c'est un apprentissage. Nous apprenons à témoigner en témoignant. Sachons saisir les occasions qui se présentent à nous pour répondre de l'espérance qui est en nous. Amen.